Batman. Le chevalier fou s'enfuit à bord d'un camion de crème glacée.
Lors d'une cocotte minute, ce brigand s'échappe.
Vite, nous devons nous mettre à la poursuite de ce filou.
À la Batmobile.
Vite, Robin, passe-moi la Batclé.
Ah, nom d'un petit bonhomme, j'ai oublié la clé dans le jacuzzi.
Je t'avais pourtant dit de te garder tes collants dans l'eau.
La barbe, qu'allons-nous faire?
Attendons un Bat-taxi.
Batman, regarde, un Bat-trottoir.
Nom d'une oie enrhumée, tu as raison, c'est une voie piétonne.
Empruntons-la, nous pouvons encore rattraper le chapelier à pied.
Attends, Robin, tu te rappelles la dernière fois que nous avons couru après le sphinx?
Nom d'une barbe à papa, je me souviens, certes. Tante Harriet nous avait fait un sermon pour avoir taché nos Bat-costumes.
Nous ne pouvons pas risquer d'attrister Tante Harriet de nouveau.
Tu as raison, Batman. Mon intrépidité aurait pu nous conduire à la ruine.
Oui, Robin. Retournons à la Batcave en autobus. De toute façon, nous retracerons le camion à l'aide du Bat-scanner.
Nom d'un kamikaze japonais paralytique. Tu es si malin, Batman.
Je sais, Robin. Je sais.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got them skinny girls playing at my place. I'll keep your stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et bonjour et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique, votre seule émission sur le jeu. Donc, bonjour, ici François Gécouillard au micro qui parle. Aujourd'hui, grosse émission chargée, une pelotée de collaborateurs, une brouette remplie de collaborateurs. Donc, David Claveau,
oui,
qui fait un retour sur, qui vient de parler d'économie.
Oui, ben d'abord, je vais vous souhaiter bonne année, même si ça fait plus d'un mois et demi que je voulais pas souhaiter. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'économie, crise économique, effet sur l'industrie des jeux vidéo.
Ça brasse beaucoup dans le milieu du jeu vidéo. Exact. Sinon, on a aussi Alexandre Bélanger qui vient nous parler de musique.
Comme toujours, et aujourd'hui, je présente les orchestres symphoniques dans les jeux vidéo.
Et plus tard, on va avoir Mathieu Place qui va venir nous parler de jeux rétro, sa spécialité. Donc, voilà. Et on va voir aussi, c'est vrai, le bonhomme carnaval.
Ah ouais, le fameux bonhomme carnaval, c'est cool.
Lui-même qui va venir nous parler un petit peu du carnaval, du froid et tout ça. Ben écoute, sans plus attendre, David, c'est à toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu dans l'actualité économique ludique?
Ben moi, dernièrement, je me suis intéressé à un sujet qu'on parle de plus en plus, la fameuse crise économique. Puis comme je suis un consommateur de jeux vidéo, eh bien, je me suis demandé si ça allait changer de quoi ma consommation. Alors, le sujet a été soulevé en fin 2008 par des journalistes américains qui ont écrit des articles dans le journal qui s'appelle The Economist. D'abord, on disait que beaucoup d'éditeurs affichaient des pertes en fin 2008, puis on se demandait si c'était dû à cause de la crise économique. Eh bien, dans ces articles-là, on disait que non.
Non, ah, la crise ça n'avait pas rapport avec la crise.
Exact, ça n'avait pas rapport avec la crise. Ah, c'est qu'en fait, on avait investi beaucoup d'argent pour le développement des consoles de jeux vidéo. Donc, c'était plutôt des investissements cycliques où la rentabilité allait s'en venir, éventuellement. Aussi, on disait que, et je prends mot pour mot, d'un éditeur de Rod de Pardo de Blizzard. Il disait « Historiquement, l'industrie des jeux n'a pas été affectée par des récessions comme ont pu l'être d'autres branches. Je pense que la raison de cela est que les jeux constituent le meilleur divertissement du marché. Peut-être que les gens ne souhaitent pas dépenser une centaine de dollars pour quelques heures de film et un resto, alors qu'il est possible de rester chez soi et de payer 15 dollars par mois pour 100 heures de divertissement. » Donc, c'est l'une des raisons pourquoi que dans les récessions du passé, les jeux vidéo n'avaient pas été vraiment affectés en termes de consommation.
C'est comme une niche protégée, là, si on veut. Mais dis-moi, David, là, est-ce que ça voudrait dire que les licenciements massifs qu'on assiste là, depuis ces derniers mois, là, ça voudrait dire que c'est bidon, quoi?
Ben, c'est justement là-dessus que je voulais en venir maintenant. Donc, en fin d'année dernière, on se voyait très confiant à ce que l'industrie des jeux vidéo allait être stable. Et voilà qu'en début d'année 2009, on annonce des restructurations massives dans plusieurs gros joueurs du domaine. Parlons notamment de Microsoft, Sony, ICO et Electronic Arts. D'abord, en fin 2008, selon les états financiers de Sony, on disait qu'on atteignait des pertes records avec la vente de PlayStation 3. Sony avait investi beaucoup d'argent pour lancer cette machine-là. Et puis, en fin d'année, comme on était en récession, les gens n'ont pas acheté la machine. Sony avait annoncé par la suite plusieurs licenciements touchant plus de 16 000 emplois, surtout au Japon. On s'entend que c'est quand même énorme, 16 000 emplois.
Ouais, c'est pas seulement dans le jeu vidéo, 16 000 emplois, c'est peut-être dans les autres appareils électroniques ou...
Sony, l'entreprise au complet, oui, incluant la division jeu vidéo, bien sûr. Donc, c'est vrai que 16 000 emplois touchent une bonne grosse restructuration de l'entreprise, ouais. D'un autre côté, Electronic Arts a aussi dernièrement remercié 10% de ses effectifs. 10% équivaut à 1000 emplois. On sait qu'Electronic Arts a environ 2500 employés au Canada, dont la majorité sont à Vancouver, mais aussi dans la région de Montréal. Donc, est-ce que ça va toucher des employés de Montréal? On souhaite que non, bien sûr. On a aussi annoncé dernièrement la fermeture de quelques studios. Par exemple, ICO a annoncé la fermeture de Rockpool Games, où 14 emplois seraient touchés. On avait invoqué comme excuse la réduction des coûts inutiles. Donc, est-ce que les studios, c'est des coûts inutiles? Je ne sais pas.
Mais dis-moi, est-ce que tu penses que ça va toucher la ville de Québec, peut-être,
C'est une excellente question. Il faudrait demander et cogner aux portes de Ubisoft ou de Binox ou d'autres entreprises qui ont leur centre à Québec. J'imagine qu'en ce moment, il y a des gros meetings qui sont en train de discuter à huis clos. Mais il n'y a pas seulement l'offre qui change dans cette période de crise économique aussi, il y a la demande. Fait que non seulement il y a des fermetures de studios, des pertes d'emplois, il y a aussi Ubisoft qui a une diminution des cotes boursières à la suite qu'ils avaient dit dernièrement que l'année 2009 allait être assez stable. Donc ils ont chuté en bourse. Ben la demande elle change du côté les joueurs. Ça dirige vers les jeux sur Internet et les jeux gratuits. Okay. Donc, effectivement, sur le discours que Rod disait au départ, les gens préféraient consommer des jeux vidéo au lieu d'un bon film. Mais à l'heure actuelle, moi qui est un bon consommateur de jeux vidéo, je te dirais que dans mon arsenal de jeux que j'ai chez moi, je préfère me retaper ces jeux-là que de dépenser un 60$ avec un nouveau jeu puis que j'aurai à peine 10 heures de jeu. Mm-hmm. Donc, je préférerais me payer un bon film puis me rejouer une game de Final Fantasy, l'un de mes classiques.
Ou tu pourrais peut-être aussi louer un jeu vidéo, je te dis ça comme ça, ça coûterait moins cher.
Exactement, la location sur 3 jours, ça coûte moins cher. Fait que sur la réorientation de la demande, les gens vont de plus en plus sur les jeux offerts gratuitement sur Internet. D'ailleurs, en fin 2008, on annonçait une augmentation de 27% de la consommation des jeux sur Internet aux États-Unis seulement, ce qui équivaut maintenant à 86 millions de personnes.
Oh boy! Mais est-ce qu'on parle uniquement de jeux gratuits sur Internet ou ça peut être des jeux payants aussi?
Au départ, on parlait de jeux payants, mais de plus en plus, la demande augmente pour les jeux qui sont financés par les publicités. Même que l'un des spécialistes des jeux à ComScore, Edward Hunter, dit que le jeu payé par les publicités sur Internet va bénéficier de la crise économique, l'un des créneaux qui risque d'en bénéficier énormément. Il y a aussi Yahoo Game, un des sites les plus populaires, qui a augmenté de 20% ses recettes seulement en 2008. On annonce que éventuellement les gamers risquent de s'orienter là-dessus. Et EA a lancé un Battlefield Heroes, un jeu de guerre.
Un jeu gratuit, un peu humoristique. Ouais.
Exact, sauf que bon, gratuit à l'adhésion, mais qui éventuellement va devenir payant en cours de jeu.
C'est ça, souvent c'est parce qu'on peut acheter, par exemple, avec de la vraie argent, des armes ou des trucs supplémentaires pour son personnage dans le jeu.
Oui, exactement.
C'est une façon détournée de faire payer les gens.
Exact. Donc, c'est ce qu'on attend aussi au niveau de la demande. Alors, la question est, est-ce que on va être fortement touché sur la province de Québec? Et est-ce que nous, en tant que consommateurs, on y a quelque chose à faire pour essayer de conserver nos emplois?
Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une question avec une réponse, David?
Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne fais que la poser.
Pour l'instant, en tout cas, le Québec a l'air assez protégé par la crise économique. Donc, on va souhaiter, pour le mieux de l'industrie du jeu vidéo, qui est très importante au Québec, on va leur souhaiter la meilleure des chances.
Oui, tout à fait.
Donc, merci, David.
Ça
David,
me fait
qui nous parlait d'économie. Et puis, c'est intéressant de voir que la crise économique peut aider certains secteurs et nuire à d'autres. Donc sinon, dis-moi, c'est Guillaume Farran qui fait la mise en onde aujourd'hui pour une première fois. Il va nous lancer une pièce de Musax, donc notre ami Yannick Capmarty de Haute-Garonne, dans le sud de la France. On salue les gens de Haute-Garonne. Il va nous faire jouer une pièce qu'il va présenter lui-même. Donc vous écoutez Puissance Maximale.
Oui, donc une chanson de Musax, ça va être une chanson qui va être sur lui-même, mais sur Tomb Raider. Donc voici la chanson de Musax, Tomb Raider, et avec son petit intro.
Alors, un petit problème technique, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous sommes là.
Comme toujours. On pourrait même continuer sur le sujet de monsieur ici, parce que c'est vraiment un bon sujet.
Oui, qu'est-ce que tu aurais de bon à dire à ce sujet-là?
Moi, je me dis, globalement, est-ce que les jeux vidéo vont être atteints ou pas? C'est l'autre question. Là, on parlait du Québec, on parlait des employés, mais globalement, dans le monde, est-ce que l'industrie, la sphère des jeux vidéo est touchée? Ou...
Ben, on parlait présentement de l'essor de la Chine, qui allait lancer une nouvelle console de jeux vidéo, mais là, en Chine, il y a énormément de répression d'emploi, et dont de demande au niveau de la consommation des objets de divertissement. Donc effectivement, moi je crois qu'ils vont retarder le lancement de leur console qu'ils voulaient faire sur le marché.
Donc ça affecte, mais sans nuire considérablement, mais ça affecte un peu les évolutions de l'industrie, peut-être la sortie des jeux des consoles comme en Chine.
Oui, donc on repousse la sortie de certains jeux en attendant que l'économie se stabilise.
Puis si le fait que Electronic Arts ait licencié des gens, est-ce que c'est directement relié à la crise économique ou plutôt c'est plus le fait des mauvais investissements, les mauvais investissements ou...
Ah, bien sûr qu'il y a, je dirais, un ensemble de tout. Donc il y a plusieurs facteurs comme Electronic Arts avait beaucoup investi sur les consoles de Xbox puis de PlayStation 3.
Grosse erreur.
Pourtant, on a vu la Wii qui a dominé énormément sur les marchés. D'ailleurs, on dit qu'ils ont investi plus de 15 à 20 millions de dollars, ce qui coûte très cher. Par contre, ils ont aussi mentionné dans leur plan de relance qu'ils allaient de plus en plus créer des jeux vidéo pour la Wii.
Ah.
Donc, c'est quelque chose à voir éventuellement. Est-ce qu'ils vont, avec leur plan de relance, réussir à passer à travers la récession ou pas?
Très bien. Donc, on va l'écouter maintenant. Yannick, musax.info.
Le premier épisode du célèbre jeu Tomb Raider sort en 1996. Réalisé en trois dimensions temps réel, ce jeu d'action-aventure met en scène une séduisante aventurière prénommée Lara Croft. Publié par Eidos et développé par Core Design, ce premier volet de la série connaît un énorme succès planétaire.
Donc, vous êtes toujours sur Puissance Maximale. Et maintenant, on se dirige vers la chronique musique d'Alexandre Bélanger. Salut, Alexandre.
Bonjour à tous. Toujours heureux d'être parmi vous. Hey, est-ce que vous avez réussi à placer la musique de fond? Commencer. Oui, alors elle va commencer en même temps que moi, peu à peu. Aujourd'hui, je viens vous parler des orchestres symphoniques dans les jeux vidéo. Au tout départ, on avait, bon, j'en ai parlé plusieurs fois, dans les puces intégrées dans les consoles, on avait une très petite technologie qui nous permettait pas de vraiment rendre la musique orchestrale, la musique avec des vrais instruments. Non, plutôt, c'était des imitations des orchestres symphoniques. Et donc, c'était comme un rêve, le fait que d'avoir un orchestre symphonique, c'est comme un idéal à atteindre pour les premiers compositeurs dans les jeux rétro, dans les premiers jeux.
C'est ça, parce qu'ils devaient toujours composer avec des outils minimalistes.
Exact. C'est ce que je disais, exactement, c'est ça. Et peu à peu, bon, les technologies se sont développées et on a pu intégrer de plus en plus des véritables instruments, de quoi de plus en plus proche. Et aujourd'hui, on peut vraiment parler de quelque chose de pareil, ou sinon au-delà des jeux vidéo, même de la musique qui suit les comportements du joueur. Et tout ça, beaucoup avec des orchestres symphoniques. C'est vraiment le sujet du jour, les orchestres symphoniques, je ne veux pas trop dévier. Et, y a, bon, la musique qui suit les mouvements du joueur, et aussi ça se rapproche un peu, mais ça se ressemblera jamais, et ça je pourrais revenir dans l'avenir à la musique de film ou à la musique de télévision, mais la musique de jeux vidéo reste distincte. Et aujourd'hui, le vif du sujet, bon, c'est vraiment les orchestres symphoniques, et je veux parler de reprises. En ce moment, on peut entendre Star Fox en orchestre symphonique, le thème d'ouverture du jeu. Les reprises des grands thèmes des jeux vidéo sont vraiment une chose commune. Si vous cherchez sur Internet, si vous inscrivez orchestral, video games ou quoi comme ça en anglais, vous allez voir qu'il y a plusieurs orchestres qui se spécialisent dans la reprise de thèmes de jeux vidéo.
D'ici, de quel genre d'orchestre on parle des orchestres, des grands orchestres?
Des grands orchestres. Là, je parle uniquement, mais je voulais parler un peu de tout ce qui était, bon, orchestre symphonique, là, avec des grands arrangements, là.
Okay.
Mais ça peut inclure aussi les groupes d'école, d'harmonie de l'école, les 30 personnes. Ça, sur YouTube, vous savez, si on tape le nom d'un jeu, on va trouver plein d'orchestres d'école.
Ah oui, des orchestres d'école, ça, j'ai jamais entendu, par exemple.
Ah, va voir sur YouTube, tu vas en trouver considérablement du Zelda. Il y en a à pas jeter. C'est commun. C'est commun, les orchestres d'école, les étudiants ensemble, tout ça, les amateurs. Mais il y a aussi des formations professionnelles. Je vais vous en nommer trois qui sont probablement les plus connus. Premièrement, il y a Video Games Live qui présente vraiment un ensemble multimédia qui intègre scène, musique, orchestre avec des éléments interactifs avec l'audience. Quelque chose de très 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 fort. Probablement l'orchestre le plus important au niveau des jeux vidéo qui font des tournées mondiales et surtout aux États-Unis. Il y a Play avec un point d'exclamation qui, eux, se spécialisent dans les tournées mondiales. Et ces orchestres-là présentent à peu près toujours un peu les mêmes choses. On parle de Final Fantasy, Metal Gear, Halo, Castlevania, World of Warcraft, un mélange du passé et du présent au niveau des succès, vraiment des grands succès de la musique de jeux vidéo. Super Mario Bros, évidemment, qui est un incontournable. Sonic, Legend of Zelda, bon, tout ça, c'est les classiques un peu que les orchestres symphoniques reprennent. Et le dernier... La dernière formation orchestrale que j'ai à nommer, c'est Symphonic Game Music Consult, qui est un groupe allemand qui a été le premier groupe en dehors du Japon. Parce qu'au Japon, ça reste quelque chose d'assez commun depuis 1990, et peut-être même, non, 1990 pile, ça serait le début de la reprise orchestrale de la musique de jeux vidéo, qui était à l'époque seulement sur Nintendo 8 bits. Et aujourd'hui... encore, le cœur de ma chronique, c'est, je veux vous présenter 5 disques qui ont été produits au début des années 90, qui s'intitulent Orchestral Game Music Consult. Ce sont 5 disques, volume 1 à 5, qui ont été produits par des Japonais entre 91 et 96. Ça comprend les classiques du Final Fantasy, du Zelda, du Metroid, mais aussi quelques jeux moins connus en Amérique. Mais si vous êtes passionné de musique tout court, vous allez vraiment être... heureux d'entendre Dragon Quest 2 ou Albert Odyssey, ou toutes sortes de hits vraiment inconnus ici, mais qui sont des célébrités musicales au Japon.
Toi, David, t'as l'air de comprendre, t'as l'air de connaître ça.
Oh ouais, moi, j'ai envie de retourner jouer à mes jeux, là. Je me dis, hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce genre de musique-là. Mais c'est où qu'on peut se procurer ces CD-là? C'est rare?
C'est introuvable. Encore une fois, c'est très difficile à trouver. Il faut vraiment chercher sur Internet avec le nom Orchestral Game Music Console.
OK.
Ça se trouve très bien. Mais quand même, il faut faire des efforts pour chercher, là. Ça doit être gratuit. Il faut vraiment chercher. Mais ça vaut la peine. Une fois que vous avez ça entre les mains, là, c'est vraiment génial. Il y a toutes sortes de morceaux, dont celui qu'on entend derrière, le thème de Star Fox, qui est un morceau fameux. Vraiment, vraiment fameux.
Star Fox, on se rappelle le petit renard de l'espace.
Oui.
Ben, le premier jeu en 3D dans un environnement avec un Z, là, X, Y, Z.
Ah, ok, oui, avec trois dimensions. Là.
C'est le premier jeu qui permettait vraiment un déplacement à l'intérieur d'une troisième dimension. Star Fox, mais c'était pas un gros déplacement, c'était rien qu'un turbo qui nous permettait d'approfondir la troisième dimension. Mais bref, sur Star Fox, mais aujourd'hui, la pièce que je vais vous présenter sera un extrait, une reprise d'un jeu, et ça, c'est un bijou, mesdames et messieurs. C'est un jeu qui, au départ, la musique était faite de façon orchestrale. Déjà sur le Super Nintendo, quand le jeu est sorti, c'était déjà très orchestral comme musique, mais là, ça a été repris en musique symphonique. Et ce jeu-là, c'est une perle au niveau de la musique et aussi au niveau du gameplay, là, de la jouabilité. C'est un grand classique du Super Nintendo. Il s'agit d'ActRaiser. ActRaiser qui alliait Sim, un peu le développement d'une ville, avec la quête en 2D, la plateforme avec l'épée et les monstres et tout. Un excellent jeu et surtout une excellente musique. Et aujourd'hui, ça sera une pièce de ActRaiser Symphonic Suite. Ça fait pas partie des 5 CD que je vous ai présentés. Plutôt, c'était Star Fox qui joue en arrière de moi. Mais ce disque-là, à lui seul, c'est 30 minutes. Okay? C'est son seul défaut, c'est qu'il est trop court. Parce que c'est 30 minutes de bonheur qui peuvent convertir tous les néophytes ou ceux qui ne connaissent pas du tout la musique de jeux vidéo. En écoutant ça, vont être convaincus de la grande qualité de cette musique. Donc, on y va avec ça aujourd'hui à puissance maximale. On écoute la pièce de ActRaiser. Je pense que c'est Phil Moore de ActRaiser Symphonic Suite. Thank you.
bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale.
Oui, vous êtes avec Puissance Maximale et on venait juste d'entendre évidemment la pièce sélection de Alexandre Bélanger. Sinon, dis-moi, on se retrouve un de nos anciens, Mathieu Place. Bonjour,
oui,
Mathieu.
Salut, ça va bien?
Oui.
Hey, je suis vraiment content d'être ici là, dans le studio et puis de reparler de jeux vidéo avec vous autres. Là, ça me fait plaisir d'être là. Ça...
Donc, t'as réussi à sortir de ton sous-sol.
Oui, c'est ça.
Pour venir me rejoindre.
En fait, si vous voulez des détails, c'est que j'étais à la recherche d'un emploi et je l'ai trouvé, l'emploi. Alors voilà. Alors,
bravo,
maintenant, je peux consacrer du temps à Puissance Maximale. Alors, bon, c'est le temps de ma chronique, là. Ça, on va
oui.
parler. OK, excellent. Alors, pour ceux qui connaissent Puissance Maximale, vous savez qu'on est présent sur Internet et vous savez que, bon, il y a toutes sortes d'offres, de jeux vidéo et de contenus médias sur les jeux vidéo. Mais il y en a un dont je voudrais vous parler, c'est Angry Video Game Nerd.
Ah oui, je connais ça. Ça, oui,
oui, okay, tu connais ça, ok. Alors, pour ceux là, qui aiment le rétro gaming comme moi, qui adorent les jeux vidéo d'une autre époque, de l'époque de Atari et de Nintendo, les années 80, début des années 90, eh bien, allez voir sur YouTube, vous allez trouver, en cherchant Angry Video Game Nerd, vous allez trouver toute une gamme de vidéos qui ont été créées par James D. Rolfe, qui est un fan de jeux vidéo aux États-Unis. Puis ce gars-là, en fait, c'est vraiment un exemple de vidéo virale, là, comme dans le plus classique des termes, là.
C'est-à-dire, lui, c'est un geek spécial, c'est-à-dire qu'il est frustré.
Oui, c'est ça, ça te touche, là. Il est frustré par rapport au jeu.
Il a raison.
Ben oui, ben c'est parce qu'il choisit...
Souvent, les jeux qu'il joue, ouais, il a raison.
C'est ça, exactement. Il choisit des jeux vraiment poches d'une autre époque, et puis il va les commenter. Et puis bon, tu sais, c'est sûr qu'il y a des jeux, bon, je vais vous nommer quelques jeux qu'il va commenter, puis peut-être ça va vous rappeler quelques frustrations, là. Alors, le jeu sur Nintendo, des Simpsons versus The Space Mutants, il y avait le jeu de Ghostbusters, Superman 64.
Moi, je me rappelle d'avoir vu une vidéo 64. Avec un jeu qui a été fait sur Jason, le film de Jason, mais
oui.
sur Atari.
Oui.
C'est absolument atroce. Il faut que tu tues des gens à la chainsaw. C'est quoi
c'est
ce
ça,
jeu-là?
C'est juste ça. Il y a des personnages qui passent et puis t'as une petite chainsaw puis tu tues des gens qui passent, là, tout simplement.
Et la chainsaw est représentée par trois magnifiques pixels, alors c'est de toute beauté.
C'est ça, exactement. Et puis bon, vous avez aussi les jeux porno de cette époque-là qui étaient quand même quelque chose. Vous aviez des femmes nues avec 3-4 pixels. Et puis bon, ça aussi, c'est commenté, je pense, par Angry Video Game Nerd. Mais il va passer tous ces jeux, ces jeux-là. Il va aussi parler de la Virtual Console. Vous vous souvenez de l'essai de Nintendo dans le milieu des années 90 qui avait inventé une console qui se trouvait être des lunettes qu'on se mettait sur les yeux. Et puis, un seul joueur pouvait jouer. Et puis, c'était en trois dimensions étranges, en rouge et noir. Ouais, tout simplement. Et puis, bon, il paraît qu'après une heure de jeu, ça donnait un méchant mal de tête. Alors, c'était vraiment un grand échec, mais bon, notre ami de Angry Video Game Nerd va aller faire la découverte de ce jeu-là. Et puis, bon...
Mais moi, j'aurais d'appel à tous à faire sur ce sujet-là, les lunettes, ces fameuses lunettes-là. Là. Il y a personne que je connais qui a ces lunettes-là. Écoute, il faudrait qu'on mette la main là-dessus et qu'on essaie ça. Non?
Oui, ben c'est ça, c'est vraiment rare, mais peut-être dans un marché aux puces, des fois, je le vois, mais bon, j'en parle au gars, puis il dit, ah, elle est brisée, j'ai pas de cassette, etc. J'ai pas encore trouvé la perle rare, le jeu en tant que tel. Puis bon, évidemment, les collectionneurs, ils sont arrachés à ce jeu-là parce que c'est vraiment rare. Il n'y a pas grand monde qui l'ont acheté.
Il y a
le
Power Glove aussi.
Le Power Glove. Mmh. Et puis bon, vous avez aussi, par exemple, bon, les vieux Atari aussi dont tu vas parler. Et puis bon, le Power Glove, il n'y avait pas une espèce de tapis aussi où est-ce qu'on pouvait danser, etc.
Ou courir. Oh,
oui,
j'ai vu une vidéo là-dessus.
Bon, ben c'est ça. C'était l'ancêtre de la Wii. Là. Bon, ben, c'était un autre périphérique là, qui était assez étrange à l'époque. Et puis, bon, Nintendo, justement, notre ami, c'est vraiment une vidéo virale. Ça a vraiment marché. Là, ça n'a pas d'allure, son affaire. Là. Au début, c'était juste une vidéo qu'il voulait faire pour ses amis, juste pour niaiser avec ses amis. Il a commenté le jeu Castlevania, Simon's Quest, le deuxième Castlevania, qui était assez étrange. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je l'avais beaucoup aimé, mais on dirait que je suis le seul dans l'Occident à avoir aimé ce jeu-là. Alors, lui, il a commenté ce jeu-là, puis finalement, ça a vraiment marché parce que il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui se sont sentis concernés par ça.
Sa spécialité, c'est de s'arrêter sur les bugs. Hein.
Oui.
Castlevania 2, Simon's Quest, c'était un jeu qui avait vraiment des bugs dedans, qui avait vraiment des choses impossibles, qui faisaient en sorte qu'on pouvait pas passer le jeu.
Oui, exactement. C'est parce que à l'époque, il y avait pas Internet, hein, fait que c'était très difficile de trouver les trucs. Il fallait en entendre parler au travers de conversations, en parler à son cousin qui en avait entendu parler, ou encore, il y avait évidemment le Nintendo Power qui venait d'apparaître. Alors, il y avait des trucs qui étaient là-dedans, mais sinon, c'était très difficile de trouver les solutions de Castlevania Simon's Quest. C'était vraiment du genre, OK, il faut que ton personnage se place accroupi en ayant sélectionné tel objet, etc. Et puis, non seulement ça, mais bon, dans un jeu normal, on peut avoir des indices en parlant des personnes, en visitant certains lieux, mais dans ce jeu-là, spécialement, les personnages qui donnaient des indices, c'était écrit dans le manuel, ils pouvaient mentir. Alors, vous aviez des indices qui étaient faux. Essayez de démêler tout ça, là. T'sais, fait que c'était vraiment atroce. Et puis, notre ami sur YouTube a décidé de détruire ce jeu-là. Et puis, c'est drôle de voir que dans le décor de ce jeu-là, quand il va commenter ce jeu-là, il est vraiment dans son petit appartement chez eux, à côté de son ordinateur, vraiment amateur. Et puis, si vous regardez les nouveaux vidéos qui ont été faits, eh bien, là, il est dans une salle exprès pour ça, avec toute sa collection incroyable, dans une espèce de simili-studio.
C'est ça, parce que je pense qu'il a réussi à se faire un salaire avec cette petite vidéo-là, je pense.
Vraiment un phénomène, c'est que par la suite, après quelques vidéos, ben, il a été repêché par une gang qui s'appelle Screw Attack. Et puis, ensuite de ça, les vidéos qui étaient diffusées sur Screw Attack ont été rediffusées sur un gros serveur, là, c'est-à-dire un Game Trailer, qui a beaucoup d'argent. Et puis là, il payait James pour pouvoir faire ses vidéos. Et puis là, justement, là, on voit comment ça a monté là, son succès en regardant le local où est-ce qu'il va faire ses vidéos. Là, c'est parti de sa petite chambre. Puis là, c'est devenu une espèce de local incroyable avec beaucoup, beaucoup de stock dedans.
C'est incroyable parce qu'en plus, c'est super simple, ses vidéos. Oui. Je veux dire, il fait juste commenter un jeu, mais tu sais, avec un espèce de personnage de nerd frustré, et puis c'est voilà.
C'est ça, exactement. Il est très créatif aussi dans ses obscénités, là. Ça, c'est une autre de ses marques de commerce, là. Il va dire, bon, là, je peux pas les répéter à la radio.
C'est vrai que des fois, il y a des mises en scène, hein. Il y a comme des acteurs et tout ça. Il rencontre des personnages.
Ben, pour lui donner un peu de crédit, là, c'est pas un gars qui sort de nulle part, là. Il fait des vidéos, des films d'horreur, etc., amateurs depuis toujours, là. Il y en a sur Internet, là, on peut en trouver. Alors, ce gars-là, il connaît ça. Alors, des fois, il va faire des petits effets spéciaux, il va faire des personnages, des décors, des costumes. Alors, il y a une valeur de production supplémentaire qui donne que c'est vraiment intéressant.
Au départ, tu avais l'air de dire la manière qu'il sacre un peu, qui insulte les jeux, c'est ça, c'est une bonne marque de commerce parce que c'est vraiment frappant.
C'est ça, exactement. Là, c'est pas dire des choses très... c'est ça, ce sera pas simple, les sacs qu'on utilise de manière quotidienne, là, en anglais, exactement. Là, il va chercher. Tu sais, on voit qu'il y a vraiment une recherche presque littéraire. Il doit s'asseoir, il doit les noter, quelque chose. Et puis là, c'est ça.
C'est pas improvisé, c'est scripté. Hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est scripté. Puis là, à chaque fois, c'est vraiment des belles trouvailles d'obscénité. Toujours plus douloureuses, toujours plus vulgaires. C'est assez atroce. Alors, si vous aimez ça, si vous aimez Angry Video Game Nerd, je vous invite aussi à aller voir Irate Gamer, I-R-A-T-E Gamer. En fait, c'est exactement comme Video Game Nerd, là, mais bon, si vous en avez pas assez, ben vous avez aussi Arid Gamer. Et puis, il y a un autre que j'aime bien, c'est Spoony One, S-P-O-O-N-Y-O-N-E. Bon, ça, c'est moins de production, là. Le gars, tu sais, des fois, il joue un jeu, et puis là, il s'assoit à côté de sa webcam, et puis il fait juste commenter le jeu. Mais bon, c'est intéressant, pareil, parce que le gars a un bagouille, une manière de dire qui est assez drôle. Fait que ça vaut la peine aussi, là. Si vous êtes à la recherche de ce genre de jeu, de vidéos-là, eh bien, vous allez pouvoir être satisfait avec ça aussi.
Ces liens-là devraient être sur le site.
Ouais, on pourrait les mettre sur le site après, ouais, sur puissancemaximale.com.
Ah, ça pourrait être
la fun, ouais. Et Angry Video Game Nerd, il faut dire, c'est comme un mélange de critique puis de divertissement en même temps.
Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Nostalgie, hein, c'est ça. Ça s'adresse beaucoup à la génération Y, là, c'est-à-dire, ma génération en tant que telle.
Notre génération.
Ouais, c'est ça. Ceux qui ont grandi avec ces jeux-là, avec la première génération de jeux vidéo. Et puis, bon, c'est ça. Si vous cherchez, là, vous allez avoir même une vidéo de notre video game nerd quand il avait 8 ans puis il jouait pour la première fois à Mario Bros.
Non,
c'est très
c'est
très
fort,
drôle.
C'est fort.
C'est très drôle parce qu'on voit vraiment l'origine de la chose. Il commence à jouer là puis là son personnage meurt et puis là il se fâche là, c'est une grosse colère rouge là, de petit enfant de 8 ans. Alors tu sais c'est vraiment drôle de voir que tu sais son destin était déjà tu sais tracé à 8 ans là, c'était, puis ça a été filmé là, alors, une belle découverte sur YouTube.
Ben, je te remercie beaucoup, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Donc, il venait de parler de Angry Video Game Nerd et les autres petits courts-métrages, les autres personnages qui font à peu près dans le même genre. On va mettre les liens sur le site. Sinon, Guillaume Forrand va nous proposer une pièce musicale.
Et oui, on va y aller avec un petit classique des gens du jeu de rôle. Partons à l'aventure, Compagnon, une chanson du Donjon de Neil Burke. Donc, une chanson faite par nos cousins français et une très bonne chanson, très prometteuse pour les aventuriers, je crois. Donc, je mets ça à l'instant.
Je réparais des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. J'avais ouï d'une tour, siégeant un peu plus loin. J'ai attrapé mon canasson, mes bottes et mon gourdin. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Je suis arrivé au lieu dit, trempé par un orage. L'aventure s'est enfuie, mais j'ai gardé mon courage. En tournant l'édifice dont la porte était fermée, j'ai glissé dans la boue et puis les chiens sont arrivés. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Ils ont bouffé ma cape, mes sandwichs et mon boudin. J'ai dû abandonner mon sac et fuir comme un vilain. Poursuivi par les bêtes, je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. J'ai rampé dans la fange, les vermines et les sangsues. J'ai atterri dans un cachot, vive et trois dessus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin. Et ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. J'ai traîné dans les corridors sans armes et déprimé. Égaré dans la tour, je suis revenu à l'entrée. Les orques m'ont vu passer, courant vers la sortie. Ils se demandent encore qui était cet abruti. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. L'histoire était finie et j'ai voulu rentrer chez moi. En courant sous la pluie, boitant comme un vieux rat, cherchant pour une auberge, une paillasse et un cruchon, je me suis dit l'aventure, c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure, comme un chien, j'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à faire des chaises en bois.
Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Et bien sûr, on est allé rejoindre le Bonhomme Carnaval parce que en ce moment même, c'est quoi? C'est le Carnaval de Québec. Et là, toutes les gens qui sont en France sont en train de se dire, mais c'est quoi le Carnaval de Québec?
Ben, le Bonhomme, c'est...
C'est la fête de la neige.
La fête de la neige, ouais, c'est ça. On peut, on peut se lancer dans la neige tout nu aussi, puis on peut boire du caribou.
Il y a des,
peut,
bains, des bains de neige. D'ailleurs, ça va être bientôt, là, dans la semaine qui vient. Donc, ça dure le Carnaval de Québec jusqu'au 14 février. Vous pouvez aller justement vous bourrer la face de caribou, manger des queues de castor et toutes sortes de cochonneries comme ça qui vont vous rendre malade.
Mais c'est le vrai bonhomme, là?
Oui, le vrai bonhomme qui va venir nous parler.
Ben, on va voir.
Le jeu.
Ben, on va voir s'il y a sa voix.
Le jeu, tout ça. Donc, quand t'es prêt, Guillaume Forrand.
Donc, l'entrevue avec le Bonhomme Carnaval.
Ah!
Carnaval de Québec est une institution vieille de 55 ans. Nous avons eu l'honneur de rencontrer son sympathique porte-parole, le symbole de la fête et de la gaieté, le bonhomme Carnaval.
Allô, mon petit brin de neige, comment vas-tu? Un gros baiser pour toi, je vais te voir dans quelques instants. C'est vrai que Bonhomme Carnaval a été conçu de main d'homme. Il faut toujours se rappeler que la main de l'homme est guidée par l'imaginaire de l'enfant. Alors, Bonhomme Carnaval est vraiment la création telle que l'imaginaire de l'enfant voit le bonhomme de neige le premier qu'il fait de sa vie.
Donc, l'imaginaire, c'est très important, mais dis-moi, est-ce qu'il y a un lien de parenté avec le Père Noël?
Absolument pas. Comme tu peux le constater, moi, je suis beaucoup plus gros, beaucoup plus blanc, beaucoup plus bonhomme de neige que mon ami le Père Noël, qui est mon voisin, d'ailleurs.
Ouais, c'est votre voisin, mais il y a quand même une parenté dans le sens que lui aussi aime les enfants, et vous aussi vous aimez les enfants. Mais je demandais, lui, là, il est capable de voler dans le ciel, là, mais vous, est-ce que vous avez des pouvoirs spéciaux comme ça, des pouvoirs magiques?
En fait, le seul grand pouvoir que je m'accorde, c'est celui de mettre un grand sourire dans le visage de tout le monde que je rencontre. Et surtout, la grande différence entre Père Noël et moi, c'est que moi, je suis là pendant 17 jours. Et pendant 17 jours avec toute mon équipe. Et les 300 activités qu'on crée pour eux, ça donne une impression qui est pas mal plus importante que le Père Noël, qui est là à peine quelques heures.
Donc, vous êtes plus hot que le Père Noël, finalement.
Ben, en fait, si tu te rappelles, il y a eu quelques années, Michel, tu pourras me rappeler à l'ordre, mais il y a eu quelques années, un grand sondage, à savoir la popularité. On a demandé à des Québécois et des Québécoises, selon vous, qui représente le mieux la joie de vivre et l'énergie de la ville de Québec et de sa province. Eh bien, figure-toi que bien au-dessus des célébrités artistiques, des politiciens, ben, il y avait Bonhomme Carnaval tout en haut de cette grande liste. Alors, si tu me demandes, est-ce que je suis plus populaire que le Père Noël, je vais te dire que Père Noël m'appelle régulièrement me demander des conseils.
Ouais, tu te lances d'aplomb, le Père Noël, Jean Charest, Stéphane Lampin, tout ça. D'ailleurs, tu as rencontré Stéphane Lampin récemment, il y a quelque chose qui a essayé de te voler la vedette avec un coup de pied.
Là. Lors du lancement de mon grand carnaval, le premier ministre nous a fait le grand plaisir. C'était déjà sa troisième visite qu'il faisait à Québec pour le lancement de mon carnaval. Et il y a 3 ans, lors de notre première rencontre, j'avais invité notre premier ministre comme ça à faire une démonstration de sa capacité à lever la patte bien haute comme moi. Alors cette année, c'est bien entendu, on l'a pas fait sur scène, on l'a fait à l'arrière-scène. Mais M. Harper a eu la gentillesse de lever la patte encore pour souligner son attachement à la ville de Québec et son attachement à cette fête qui est la plus grande fête hivernale au monde, qui est le Carnaval de Québec.
Salut, c'est quoi ton nom?
Mia.
À quel âge?
3 ans.
Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Jouer.
Tu es avec ta mère?
Oui.
Comment est-ce que ça s'appelle?
Ali.
Ali, salut Ali.
Salut.
Et qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Je suis au carnaval avec mes petits. Ben, j'y vais chaque année pour que les enfants puissent s'amuser cette fois.
Tu aimes ça?
Oui.
C'est quoi tes activités préférées?
Faire du bricot.
Du bricot? C'est quoi ça, du bricot?
Pour coller.
OK. L'hiver, je comprends, s'il fait froid, c'est beau, ça va, en tant que bonhomme, on est à l'aise. Mais l'été, là, quand il y a des canicules, là, qu'est-ce qui devient, le bonhomme carnaval, qu'est-ce qui devient?
Ben, écoute, après quelques heures à peine, tu sais, après la fin de mon grand carnaval, on prend quelques heures à peine, juste pour me faire une beauté, et on commence déjà la grande tournée de promotion, qui m'amène un peu partout dans le monde. Au cours de la dernière année, j'ai eu le plaisir d'aller au Mexique, Mexico City, où j'ai fait l'inauguration de la première... En fait, la plus grande patinoire artificielle au monde, à Mexico City. Je suis allé voir et rencontrer pour la première fois mes amis à San Francisco. Je suis allé faire un tour à Boston, New York, ma visite annuelle. Toronto, bien entendu, le Stampede de Calgary, qui est notre ville jumelle. Les gens de Vancouver, Toronto, Montréal et Québec. Donc, je me suis promené énormément. Un peu comme les grands glaciers qui ornent les plus hautes montagnes. J'ai le plaisir, en tant que bonhomme carnaval, d'être ce bonhomme de neige de plus de 300 livres de neige et de glace et de ne pas souffrir des changements de température. Je me conserve extrêmement bien.
Écoute, là, nous, on a une émission sur les jeux de plateau, les jeux de rôle, tout ça, des grands... Toi, tu fais des activités à l'extérieur. C'est quoi tes jeux préférés?
Écoute, un de mes jeux les préférés, c'est la baignade, le bain de neige. D'ailleurs, il faut voir ça, le bain de neige, c'est samedi prochain, le 14 février. C'est extraordinaire parce que j'ai des amis. Ils vêtus uniquement de leurs souliers de course, de leurs tuques, un peu comme moi, de leurs maillots, viennent jouer dans la neige avec moi. Et ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir ces milliers de gens, ces carnavaleux, ces enfants, ces adultes, qui viennent à tous les jours, à Place des Jardins, pour jouer avec moi dans la neige, glisser, patiner, C'est vraiment ce que moi j'aime le plus.
Est-ce qu'il arrive au Bonhomme Carnaval de faire des activités à l'interne dans une maison, comme par exemple jouer à des jeux de rôle, jouer à des jeux vidéo, je sais pas?
En fait, très rarement. Je te dirais qu'on a essayé il y a quelques occasions, ici avec mes amis de TELUS, d'avoir des consoles de jeux vidéo auxquelles j'ai pu m'amuser. Alors ça, j'ai pu essayer ça. Mais régulièrement, à l'intérieur, c'est que je vais danser avec mes amis. J'ai joué aux cartes un petit peu à l'occasion avec mes personnes aînées que je vais visiter régulièrement. Mais ça s'en tient là au niveau des activités à l'intérieur.
Toi, qu'est-ce que tu préfères au carnaval?
Ben, glisser.
Est-ce que glisser, c'est la chose que tu préfères le plus au carnaval?
Oui.
Le bonhomme rend joyeux les petits comme les personnes âgées. Cependant, il arrive des situations qui ne portent plus à rire.
Hier, ben, j'ai eu aller voir une petite fille qui s'appelle Macha. Macha qui est membre des Toupie Dance depuis quelques années maintenant. Qui malheureusement, Macha elle a un cancer. Et elle est en phase terminale. Donc hier, on est allé la voir à Saint-Sylvestre dans la Beauce pour lui dire qu'on l'aimait beaucoup. Et puis qu'on était là pour penser à elle énormément. Parce que, bien entendu, toutes les toupies qui dansent avec moi et moi-même, ben, on pense beaucoup à Macha. Et aujourd'hui, ben, on va faire ça pour elle, entre autres. La première représentation, je lui ai promis qu'on allait penser à elle beaucoup et qu'on allait danser spécialement pour elle. Ben, mes amis, je vous invite à sauter dans la mascarade cette année. Je vous invite à venir sur mes sites. J'espère vous y croiser prochainement. Et à tous, joyeux carnaval!
Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez assister à un spectacle de chorale fantastique.
C'était un reportage de François Gécouillard pour Puissance Maximale. Like
Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
Et donc, c'était quoi qu'on entendait, Guillaume?
C'était une chanson de la trame sonore de la Matrix, donc Rock is Dead de Marilyn Manson.
Oui, Marilyn Manson qui joue au sataniste, mais qu'en réalité, il a un cœur tendre.
Un cœur tendre enfant.
Alors, voilà, Puissance Maximale, c'était le fun aujourd'hui. La semaine prochaine, on va avoir un invité qui va venir nous parler de reconstitution. Donc, il y a une controverse récemment, là, dans les journaux, dans les radios, dans la télé, tout ça. Donc, une controverse sur les reconstitutions de la bataille des plaines d'Abraham. Donc, la fameuse bataille, ça va être le 250e anniversaire de l'événement. Donc, évidemment, il y a des débats autour de ça, est-ce qu'on devrait la faire ou pas. Et bon, donc, on va avoir un invité qui va venir nous parler de reconstitution historique. Il va pas nous parler nécessairement de la controverse, de son opinion, tout ça. On fera pas un débat ici. C'est pas vraiment notre objectif à Puissance Maximale. C'est plus de parler de jeu. Et la reconstitution, tant qu'à moi, c'est un gros jeu. Hein. C'est un gros jeu pour adultes. Hein. On se déguise en personnage d'époque. Puis on fait semblant de se tirer dessus, puis on reconstitue une bataille. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Je suis absolument d'accord, là. Oui, oui. C'est un truc de geek, là. C'est une grandeur nature dans une autre époque, là.
Je pense qu'on va enfin entendre l'opinion de la personne. Ben, pas l'opinion, mais le point de vue de l'organisateur de ça.
L'organisateur, mais des gens qui vont faire partie de la reconstitution. Parce qu'il y a plusieurs groupes de reconstitution à Québec. C'est étonnant, hein. Il y a le groupe, comment ça s'appelle, le groupe des canonniers bombardiers de Québec. Il y a aussi les Compagnons de la Nouvelle-France. Donc ça, c'est vraiment deux groupes distincts. Je pense qu'il y en a plusieurs autres. Donc, ils font seulement de la reconstitution. Et là, moi, au début, je me disais, reconstitution, on se déguise, on fait des batailles. Est-ce que c'est comme un grandeur nature? Mais non, c'est pas du tout pareil. Les gens qui font de la reconstitution feront pas nécessairement du grandeur nature, même si ça a l'air assez rare, mystérieusement. Pourtant, c'est bénévole, les deux. Donc,
ça se ressemble aussi, un peu.
Ça se ressemble beaucoup, parce que dans le sens que, quand on fait un grandeur nature, souvent, on va se déguiser, on va faire nos propres costumes. Il y a tout l'aspect reconstitution aussi dans le grandeur nature. Et là, bon, justement, reconstitution, je me suis dit, bon, ça doit être un jeu, tout ça. Mais en parlant avec ces gens-là, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas... Pour eux, c'est pas nécessairement ça, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que c'est très sérieux, c'est quasiment un loisir anthropologique, scientifique même. Ouais. François Gagnon, des Compagnons de la Nouvelle-France, il me disait que c'était scientifique.
Finalement, ils n'ont pas de fun pantoute à faire ça.
C'est ça que tu me dis. Là. Alors, en tout cas, on va voir la semaine prochaine, on va avoir un invité qui va nous parler de ça. Sinon, évidemment, on peut faire l'agenda de la semaine, donc... Il y a demain, à tous les mardis, vous pouvez rejoindre l'Association des clubs de go de Québec au Café Aga sur le boulevard Charest. Hein, ils sont toujours là à partir de 7h, si je ne m'abuse, 7h du soir. Donc, essayez ce jeu-là, le plus ancien jeu de plateau au monde. Sinon, quoi d'autre? Il y a aussi, évidemment, les soirées jeux de plateau à l'Abraham Martin. À tous les lundis, venez nous rejoindre dès 18h. On va jouer à des jeux de plateau. C'est gratis. Et ben vous pouvez apporter des jeux, vous pouvez essayer les jeux qu'on a sur place. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Sinon, on se dirige vers la fin de l'émission.
Oui, donc on va y aller avec la chanson de clôture de Puissance Maximale, un classique que maintenant je mets dans toutes mes parties à la fin et au début. Donc allons-y avec la chanson de Donjon Dragon.
Little harmonica.
I'm sorry.
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broadsword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's the ending.
Donc, vous écoutiez Puissance Maximale, et je remercie tous les collaborateurs. David de Claveau avec sa chronique Économie.
Ça va faire plaisir, et puis je vais suivre l'actualité de près pour vous.
Et sinon aussi Alexandre avec sa chronique ludique jeu.
Oui, une pléiade de sujets attendent encore d'être délivrés à Puissance Maximale en matière de musique de jeu.
Mathieu Place sur les jeux rétro.
Salut, on va se revoir, se réentendre dans deux semaines.
Et salut Guillaume Farran qui a fait des gros efforts à la console.
Ça va être mieux le prochain coup.
Et le prochain tout le monde. C'était François Gécouillard et on vous remercie à la semaine prochaine. We're the coolest kids at the school.
No, we're not.
Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end.
Wait. Fait que là, je l'ai baisé sur play.
You got a girlfriend?
Yeah. Yeah.